Chapitre 65. La tour.
Je les vois, ils sont les pierres, ils sont les esprits vengeurs, leurs yeux sont rouges.
Kakakès, 1173, 8 secondes avant la mort. Une jeune femme sombre iris de 15 ans, sujet considéré comme mentalement instable depuis l'enfance. Quelques heures plus tard, Dalinar se tenait en compagnie de Sadeas sur une formation rocheuse qui dominait la tour elle-même. La marche avait été rude et longue. C'était là un plateau éloigné, le point le plus à l'est qu'ils aient jamais atteint. Les plateaux situés au-delà de ce point étaient impossibles à atteindre. Les Parchendi pouvaient arriver si vite qu'ils extirperaient le cœur de gemme avant l'arrivée des Aleti. Parfois, ça se produisait également avec la tour. Dalinar chercha du regard. « Je le vois », dit-il en montrant l'endroit du doigt. « Ils n'ont pas encore récupéré le cœur de gemme. » Un cercle de Parchendi cognait contre la chrysalide, mais sa carapace était faite de pierre épaisse. Elle résistait encore. « Vous devriez vous réjouir d'utiliser mes ponts, mon vieil ami. » Sadeas s'abrita le visage d'une main gantée. « Ces gouffres risquent d'être trop larges pour qu'un porte-éclat les franchisse d'un saut. » Dalinar hocha la tête. La tour était énorme. Même sa taille impressionnante sur les cartes ne lui rendait pas justice. Contrairement à d'autres plateaux, il n'était pas régulier. Au contraire, il avait la forme d'un énorme triangle allongé qui s'inclinait vers l'ouest, tendu vers un immense pic dans la direction des tempêtes. Il était trop escarpé et les gouffres trop larges pour qu'on puisse l'approcher depuis l'est ou le sud. Seuls trois plateaux adjacents pouvaient fournir des points de rassemblement pour les attaques, tous situés le long du côté ouest ou sud-ouest. Les gouffres séparant ces plateaux étaient d'une largeur inhabituelle, presque trop grande pour que les ponts puissent les enjamber. Sur les plateaux de rassemblement proches, des milliers et des milliers de soldats en vert ou en bleu étaient réunis, une couleur par plateau. Combinés, ils formaient une force plus grande que Dalinar n'en avait jamais vue rassemblée contre les Parchendi. Les effectifs des Parchendi étaient aussi importants que l'on s'y attendait. Il y en avait au moins 10 000 alignés. Ce serait une bataille à grande échelle, du genre de celle que Dalinar avait espérée, qui leur permettrait d'opposer un nombre énorme d'Aleti à une grande armée Parchendi. Ce serait peut-être pour cette fois-ci le tournant de la guerre. S'il remportait cette bataille, tout changerait. Dalinar s'abrita les yeux à son tour, casque sous le bras. Il constata avec satisfaction que les équipes d'éclaireurs de Sadeas traversaient en direction des plateaux adjacents où ils pouvaient guetter les renforts Parchendi. Ce n'était pas parce que les Parchendi avaient amené tant de soldats au départ qu'il n'y avait pas d'autres troupes Parchendi attendant le moment de venir les flanquer. Dalinar et Sadeas ne se laisseraient plus surprendre. « Venez avec moi, » dit Sadeas. « Attaquons-les ensemble, une grande vague d'attaque unique, sur 40 ponts !» Dalinar baissa les yeux vers les équipes de ponts. Beaucoup de leurs membres étaient étendus sur le plateau, épuisés, à attendre, à redouter sans doute, leur prochaine tâche. Des centaines d'entre eux se feraient massacrer lors de l'assaut s'ils attaquaient ensemble. Mais était-ce très différent de ce que faisait Dalinar lorsqu'il demandait à ses hommes de charger au combat pour s'emparer du plateau? Ne faisaient-ils pas tous partie de la même armée? Les failles. Ils ne pouvaient pas les laisser s'élargir. S'ils voulaient être avec Navani, ils devaient se prouver qu'ils pouvaient rester fermes dans les autres domaines. « Non, » dit-il. « Je vais attaquer, mais seulement une fois que vous aurez préparé un point de débarquement pour mes équipes de pont. Et même ça, c'est davantage que je ne devrais autoriser. » N'obligez jamais vos hommes à faire ce que vous ne feriez pas vous-même. Mais vous chargez les Parchendi. Je ne le ferai jamais en portant l'un de ces ponts, répondit Dalinar. Je suis désolé, mon vieil ami. Je ne vous juge pas. C'est ce que je dois faire. Sadeas secoua la tête, tirant sur son casque. Eh bien, il faudra que ça fasse l'affaire. Nous projetons toujours de dîner ensemble ce soir pour parler stratégie.
Je crois bien. À moins qu'Elokar ne pique une crise parce que nous manquons tous deux son festin.
Sadeas ricana. Il va bien falloir qu'il s'y habitue. 6 années passées à festoyer chaque soir, ça devient ennuyeux. Et puis je doute qu'il ressente autre chose que de l'allégresse, une fois que nous aurons remporté cette bataille, et laissé les Parchendi amputés d'un bon tiers de leurs soldats. On se retrouve sur le champ de bataille. » Dalinar hocha la tête, et Sadeas bondit à bas des rochers, atterrit en contrebas, et rejoignit ses officiers. Dalinar s'attarda pour contempler la tour. En plus d'être plus large que la plupart des plateaux, elle était plus rude, couverte de formations rocheuses massives de crémons durcis. Elles étaient arrondies et lisses, mais très inégales, comme un champ rempli de petits murets recouverts d'une couche de neige. La pointe est du plateau s'élevait jusqu'à un point qui dominait les plaines. Les deux plateaux qu'ils avaient utilisés se trouvaient au milieu du côté ouest. Sadeas prendrait celui du nord, et Dalinar attaquerait depuis celui situé juste en dessous, une fois que Sadeas lui aurait dégagé un point de débarquement. « Nous devons repousser les Parchendi vers le sud-est », songea Dalinar en se frottant le menton, « et les cerner là-bas. » Tout en dépendait. La chrysalide se trouvait près du sommet, si bien que les Parchendi étaient déjà situés en bonne position pour que Dalinar et Sadeas les repoussent contre le bord du gouffre. Les Parchendi les laisseraient sans doute faire, car ça leur permettrait de disposer d'une position élevée. Si une deuxième armée Parchendi venait, elle serait séparée des autres. Les Aleti pourraient se concentrer sur les Parchendi pris au piège au sommet de la tour, tout en maintenant une formation défensive contre les nouveaux arrivants. Ça fonctionnerait. Il se sentit gagné par l'excitation. Il bondit vers un affleurement plus petit en contrebas, puis descendit le long d'un escalier formé par des crevasses pour atteindre la surface du plateau, où ses officiers attendaient. Ensuite, il contourna des rochers pour inspecter la progression d'Adoline. Le jeune homme, vêtu de sa cuirasse d'éclat, dirigeait les compagnies tandis qu'elles traversaient les ponts mobiles de Sadeas vers le plateau de rassemblement sud. Non loin de là, les hommes de Sadeas se mettaient en formation d'attaque. Un groupe d'hommes de pont en armure se distinguait et se préparait à l'avant, au centre de la formation d'équipe de pont. Pourquoi les autorisait-on à porter des armures? Et pourquoi pas les autres? Elles ressemblaient à la carapace des Parchendi. Dalinar secoua la tête. L'attaque commença. Les équipes de pont se mirent à courir à l'avant de l'armée de Sadeas, approchant d'abord de la tour. « Où voudriez-vous que nous lancions notre attaque, père ?» demanda Adeline, qui invoqua sa lame d'éclat et la reposa sur sa spalière, tranchant tournée vers le haut. « Là-bas, » dit Dalinar en désignant un point de leur plateau de rassemblement. « Prépare les hommes !» Adeline hocha la tête et cria les ordres. Au loin, les hommes de pont commencèrent à mourir. « Les héros guident votre chemin, pauvres hommes !» songea Dalinar. Ainsi que le mien. Caladine dansait avec le vent. Les flèches filaient autour de lui, passant tout près, le frôlant de leurs empennages d'écorce d'éricante peinte. Il fallait qu'il les laisse passer près, qu'il fasse croire au Parchendi qu'ils étaient à deux doigts de le tuer. Malgré la présence de 4 autres hommes de pont attirant leur attention, malgré les autres hommes du pont 4 derrière lui, équipés des squelettes de Parchendi morts, la plupart des archers se concentraient sur Caladine. Il était un symbole, une bannière vivante à détruire. Caladine tournoyait entre les flèches, les repoussant à l'aide de son bouclier. Une tempête se déchaînait en lui, comme si son sang avait été aspiré et remplacé par des bourrasques. Le bout de ses doigts fourmillait d'énergie. Devant, les Parchendi chantaient leur psalmodie furieuse, la chanson réservée à ceux qui blasphémaient contre leur mort. Caladine restait à l'avant des appâts et laissait les flèches tomber tout près, les défiait, les narguait, exigeait qu'elle le tue jusqu'à ce que les flèches cessent de tomber et que le vent s'apaise. Caladine s'arrêta, retenant son souffle pour contenir cette tempête intérieure. Les Parchendi reculèrent à contre-cœur devant l'armée de Sadeas, une force immense, d'après les critères des attaques de plateau. Des milliers d'hommes et 32 ponts. Malgré la distraction de Caladine, 5 ponts étaient tombés, et les hommes qui les portaient avaient été massacrés. Aucun des soldats qui traversaient le gouffre en courant n'avait fait d'efforts spécifiques pour attaquer les archers qui tiraient sur Caladine, mais le poids du nombre les avait forcés à reculer. Quelques-uns braquaient sur lui des regards haineux et faisaient un geste étrange en plaçant leurs mains autour de leur oreille droite et en le montrant du doigt avant de se retirer. Kaladin cessa de retenir son souffle et la fulgiflamme s'échappa de lui en palpitant. Il devait trouver un équilibre délicat, aspirer assez de fulgiflamme pour rester en vie, mais pas assez pour qu'elle soit visible aux yeux des soldats. La tour se dressait devant lui, immense plaque de pierre inclinée vers l'ouest. Le gouffre était assez large pour qu'il s'inquiète que les hommes fassent tomber le pont en essayant de le mettre en place. De l'autre côté, Sadeas avait déployé ses hommes en coupe, repoussant les Parchendi, cherchant à donner une ouverture à Dalinar. Peut-être qu'attaquer ainsi permettrait de protéger l'image immaculée de Dalinar. Il ne ferait pas mourir les hommes de pont, pas directement du moins. Peu importait qu'ils piétinent le dos des hommes qui étaient tombés pour permettre à Sadeas de traverser. Leur cadavre était son véritable pont.
« Kaladin !»
lança une voix derrière lui. Il se retourna. L'un de ses hommes était blessé. « Nom des foudres !» se dit-il, se précipitant vers le pont 4. Il restait assez de fulgiflamme palpitant dans ses veines pour repousser l'épuisement. Il était devenu négligent. 6 courses au pont sans un seul blessé. Il bouscula le groupe d'hommes de pont pour trouver Scar sur le sol, en train de se tenir le pied, du sang rouge coulant à travers ses doigts.
« Une flèche dans le pied !» dit Scar à travers ses dents serrées. « Dans le pied, nom des foudres ! Qui se fait tirer dans le pied ?»«
Kaladin !»
l'appela Moash sur un ton insistant. Les hommes de pont se séparèrent pour laisser passer Moash portant Teft, une flèche saillant de son épaule entre le plastron en carapace et son bras.
« Nom des foudres !» s'exclama Kaladin, aidant Moash à reposer Teft.
Le vieil homme de pont semblait hébété. La flèche s'était plantée profondément dans le muscle.
« Que quelqu'un comprime le pied de Scar et le panse jusqu'à ce que je puisse l'inspecter. Teft, vous m'entendez ?»«
Je suis désolé, gamin. » marmonna Teft, le regard vitreux. « Je suis... »
« Ne vous en faites pas, » dit Kaladin, qui prit précipitamment des pansements à Lopen, puis hocha la tête d'un air lugubre. Lopen allait chauffer un couteau pour cautériser.
« Qui d'autre ?»«
Tous les autres sont présents, » répondit Drei. Teft essayait de cacher sa blessure. Il a dû la recevoir pendant qu'on poussait le pont à travers le gouffre.
Kaladin pressa de la gaze contre la plaie, puis fit signe à Lopen de se dépêcher avec le couteau chauffé.
« Je veux que nos éclaireurs montent la garde, qu'ils s'assurent que les Parchendi ne tentent pas le même genre d'exploit qu'il y a quelques semaines. S'ils sautent par-dessus le plateau pour atteindre le pont 4, nous sommes morts. »«
N'en faites pas, » répondit Rock en s'abritant les yeux. « Sadeas garde ses hommes dans cette zone-ci. Aucun Parchendi ne passera. »
Le couteau arriva, et Kaladin le tint avec hésitation, tandis qu'une volute de fumée s'élevait de sa lame. Teft avait perdu trop de sang. Il ne pouvait pas courir le risque de le recoudre, mais en appliquant ce couteau, Kaladin risquait de lui laisser une mauvaise cicatrice, ce qui pouvait provoquer chez le vieil homme de pont une raideur qui nuirait à sa capacité à manier la lance. À contre-cœur, Kaladin appuya le couteau contre la plaie, ce qui fit siffler la chair et sécher le sang en flocons noirs. Des sprènes de douleur sortirent du sol en se tortillant, orange et vigoureux. Dans une salle d'opération, on pouvait recoudre, mais sur le champ de bataille, c'était souvent la seule solution. « Je suis désolé, Teft. » Il secoua la tête et continua à travailler. Des hommes se mirent à hurler. Des flèches touchèrent le bois et la chair, évoquant le bruit lointain de bûcherons maniant leurs haches. Dalinar attendait près de ses hommes, regardant les soldats de Sadeas en train de se battre. « Il a intérêt à nous laisser une ouverture, » se dit-il. « Je commence à brûler d'envie d'atteindre ce plateau. » Heureusement, Sadeas acquit rapidement l'avantage sur la tour et envoya une force dégager une section de terrain pour Dalinar. Il ne s'était pas encore mis totalement en place quand Dalinar commença à bouger.
« L'un des ponts, suivez-moi » hurla-t-il tout en fonçant vers le premier plan.
Il était suivi par l'une des 8 équipes de ponts que Sadeas lui avait prêtées. Dalinar avait besoin d'atteindre ce plateau. Les Parchendi avaient remarqué ce qui se passait et commençaient à presser la petite compagnie en vert et blanc que Sadeas avait envoyé défendre sa zone d'entrée.
« L'équipe de pont, là !» dit Dalinar, doigt tendu.
Les hommes de pont se mirent précipitamment en place, l'air soulagé qu'on ne leur demande plus de placer leur pont sous une pluie de flèches. Dès qu'ils l'eurent mis en position, Dalinar chargea dessus, suivi de la garde Cobalt. Juste devant eux, les hommes de Sadeas s'écartèrent. Dalinar hurla, serrant ses mains gantées sur la poignée de justicière, tandis que l'épée se matérialisait à partir de la brume. Il percuta la ligne Parchendi qui avançait en portant un ample coup d'épée à deux mains qui fit tomber quatre hommes. Les Parchendi se mirent à psalmodier dans leur langue étrange, entonnant leur chant de guerre. Dalinar écarta un cadavre d'un coup de pied et se mit à attaquer pour de bon, défendant énergiquement l'emplacement que les hommes de Sadeas lui avaient acquis. Quelques minutes plus tard, ses soldats affluèrent autour de lui. Avec la garde Cobalt surveillant ses arrières, Dalinar s'engagea dans la bataille, enfonçant les rangs ennemis comme seul un porte-éclat pouvait le faire. Il creusait des trous à travers les premières lignes Parchendi, comme un poisson sautant d'un cours d'eau, d'avant en arrière, gardant ses ennemis désorganisés. Les cadavres aux yeux brûlés et aux vêtements lacérés formaient une piste derrière lui. Des soldats alétis de plus en plus nombreux remplissaient les trous. Adoline traversa brusquement un groupe de Parchendi non loin de là, avec sa propre escouade de gardes Cobalt, à une distance raisonnable derrière lui. Il fit traverser toute son armée. Il devait monter rapidement, coincer les Parchendi, afin qu'ils ne puissent s'échapper. Sadeas devait surveiller les bords nord et ouest de la tour. Le rythme de la bataille appelait Dalinar. Le chant des Parchendi, les grognements et les hurlements des soldats, la lame d'éclat dans ses mains et l'afflux de pouvoir que lui prêtait la cuirasse. Le frisson montait en lui. Comme la nausée ne le reprenait pas, il libéra prudemment l'épine noire, éprouvant le plaisir de dominer un champ de bataille et la déception de ne pas affronter d'adversaire digne de ce nom. Où étaient les porte-éclats Parchendi? Il en avait vu un au combat des semaines auparavant. Pourquoi n'était-il pas réapparu? Allait-il affecter tant d'hommes à la tour sans envoyer un seul porte-éclat? Quelque chose de lourd heurta son armure, ricocha dessus et fit s'échapper une petite bouffée de fulgiflamme entre les jointures le long de son bras. Dalinar jura, levant la main pour protéger son visage tout en balayant du regard la zone située à proximité. « Là !» se dit-il, en distinguant une formation rocheuse proche où se tenait un groupe de Parchendi qui maniait à deux mains d'énormes lance-pierres. Les pierres de la taille d'un crâne allaient s'écraser sur les Parchendi comme sur les Alétis, bien que leur cible ait été Dalinar, manifestement. Il gronda lorsqu'un autre coup qui le frappa à l'avant-bras envoya une petite secousse à travers la cuirasse d'éclat. Le coup était assez fort pour faire apparaître une petite série de fissures dans son canon d'avant-bras droit. Dalinar gronda et se mit à courir à une allure rendue plus vive encore par la cuirasse. Le frisson s'intensifia encore en lui et il bouscula d'un coup d'épaule un groupe de Parchendi, les éparpillant ainsi, puis tournoya avec sa lame et abattit ceux qui étaient trop lents pour s'écarter. Il esquiva sur le côté tandis qu'une pluie de pierres tombait là où il s'était tenu, puis sauta sur un rocher bas. Il avança de deux pas et sauta vers la corniche occupée par les lanceurs de pierres. Il en saisit le bord d'une main, tenant sa lame de l'autre. Les hommes qui se trouvaient sur la petite crête reculèrent en titubant. Mais Dalinar se hissa juste assez haut pour frapper. Justicière les atteignit au niveau des jambes, et quatre hommes s'effondrèrent à terre, les pieds inertes. Dalinar lâcha sa lame, elle s'évanouit, et se servit de ses deux mains pour se hisser sur la crête. Il atterrit accroupi dans un cliquetis de cuirasse. Plusieurs des Parchendi restants tentèrent d'utiliser leur lance-pierre, mais Dalinar s'empara de deux pierres de la taille d'un crâne sur une pile, les empaumant avec aisance dans ses mains gantées de plate, et les lança sur les Parchendi. Les pierres les heurtèrent avec assez de force pour les jeter à bas du rocher, leur défonçant la poitrine. Dalinar sourit, puis se mit à lancer d'autres pierres. Tandis que le dernier Parchendi tombait de la corniche, Dalinar se retourna, invoquant justicière et étudiant le champ de bataille. Un mur de lances d'acier bleu brillant luttait contre les Parchendi rouges et noirs. Les hommes de Dalinar avaient le dessus, repoussant les Parchendi jusqu'au sud-est, où ils se retrouveraient pris au piège. Adoline dirigeait la manœuvre dans sa cuirasse d'éclat luisante. Inspirant profondément à présent grâce au frisson, Dalinar leva sa lame d'éclat au-dessus de sa tête, reflétant la lumière du soleil. En bas, ses hommes l'acclamèrent, et leurs cris s'élevèrent au-dessus du champ de guerre des Parchendi. Des sprennes de gloire apparurent autour de lui. Père des tempêtes, que c'était agréable de gagner de nouveau. Il se jeta au bas de la formation rocheuse, choisissant pour une fois de ne pas descendre lentement et prudemment. Il tomba au milieu d'un groupe de Parchendi et s'effondra sur les pierres, de la fulgiflamme bleue s'élevant de son armure. Il pivota, massacrant tout autour de lui, se rappelant les années passées à se battre aux côtés de Gavilar, à gagner, à conquérir. Gavilar et lui avaient créé une entité lors de ces années-là, une nation solidifiée, unie, à partir de quelque chose de fracturé, comme des maîtres potiers refabriquent une céramique fine qu'on a laissée tomber. Avec un hurlement, Dalinar traversa la ligne des Parchendi jusqu'à l'emplacement où la garde Cobalt se battait pour le rattraper.
« On les repousse !» hurla-t-il. « Faites passer la consigne ! Toutes les compagnies sur le côté de la tour !»
Les soldats levèrent leurs lances et les messagers s'en allèrent transmettre ses ordres. Dalinar se retourna et chargea vers les Parchendi, avançant de force ainsi que son armée. Au nord, l'armée de Sadea s'était bloquée. Eh bien, celle de Dalinar ferait le travail pour lui. Si Dalinar parvenait à poursuivre son avancée, il pourrait séparer les Parchendi en deux, puis écraser le côté nord contre Sadeas et le côté sud contre le bord du gouffre. Son armée avançait derrière lui, et le frisson bouillonnait dans son sang. C'était le pouvoir, une force plus grande que la cuirasse d'éclat, une vitalité plus grande que la jeunesse. Une adresse plus grande que toute une vie de pratique, une fièvre de puissance. Les Parchendi tombaient l'un après l'autre devant sa lame. Bien qu'ils ne puissent trancher leur chair, ils transperçaient leur rang. L'élan de leurs attaques envoyait souvent leurs cadavres rouler derrière lui, alors même que leurs yeux brûlaient. Les Parchendi commencèrent à se disperser, s'enfuyant en courant ou reculant. Ils souriaient derrière sa visière presque translucide. C'était ça. La vie. C'était ça, le contrôle. Gavilar avait été le chef, l'impulsion et l'essence de leur conquête. Mais Dalinar avait été le guerrier. Leurs adversaires s'étaient soumis au règne de Gavilar. Mais l'épine noire, c'était lui, l'homme qui les avait dispersés, celui qui avait affronté leurs dirigeants en duel et tué leur meilleur porte-éclat. Dalinar hurla sur les Parchendi. Et leur ligne tout entière reflua, puis vola en éclats. Les Aleti déferlèrent à grand renfort d'acclamations. Dalinar se joignit à ses hommes, chargeant à l'avant pour intercepter les paires de guerriers Parchendi qui fuyaient vers le nord ou le sud, s'efforçant de rejoindre des groupes plus grands qui résistaient. Il atteignit une paire. L'un des deux guerriers se retourna pour le tenir à distance à l'aide d'un marteau, mais Dalinar l'abattit sur son passage. Puis saisit l'autre Parchendi et le projeta à terre d'un geste. Avec un sourire, Dalinar leva haut sa lame au-dessus de sa tête, dominant le soldat. Le Parchendi s'éloigna d'une roulade maladroite en se tenant le bras, sans doute brisé dans sa chute. Il leva les yeux vers Dalinar, terrifié, tandis que des sprennes de peur apparaissaient autour de lui. Ce n'était qu'un tout jeune homme. Dalinar s'immobilisa, lame brandie au-dessus de sa tête. Muscles tendus. Ses yeux. Ce visage. Les Parchendi n'étaient peut-être pas humains, mais leurs traits, leurs expressions, étaient les mêmes. Sans cette peau marbrée et cette étrange armure de carapace, ce garçon aurait pu être un palefrenier de l'écurie de Dalinar. Que voyait-il au-dessus de lui? Un monstre sans visage à l'armure impénétrable? Quelle était l'histoire de ce jeune homme? Il n'était sans doute qu'un enfant quand Gavilar avait été assassiné. Dalinar recula en titubant, tandis que le frisson s'évanouissait. L'un des gardes Cobalt passa près de lui et plongea son épée dans le cou du jeune Parchendi d'un geste désinvolte. Dalinar leva la main, mais ce fut terminé trop vite pour qu'il puisse l'empêcher. Le soldat ne remarqua pas le geste de Dalinar. Ce dernier baissa la main. Ses hommes se précipitaient autour de lui, déferlant sur les Parchendi en train de s'enfuir. La majorité des Parchendi continuait à se battre, résistant contre Sadeas d'un côté et l'armée de Dalinar de l'autre. Le bord est du plateau n'était plus très loin sur la droite de Dalinar. Il avait foncé sur l'armée Parchendi comme une lance, la fendant en son centre pour la séparer en deux parties, au nord et au sud. Autour de lui gisaient les morts. Beaucoup étaient tombés à plat ventre, atteints dans le dos par les lances ou les flèches des hommes de Dalinar. Quelques Parchendi étaient toujours en vie, mais mourants. Ils chantonnaient ou murmuraient pour eux-mêmes une étrange et obsédante chanson, celle qu'ils chantaient lorsqu'ils attendaient la mort. Leur chant murmuré s'élevait comme la malédiction des esprits dans la marche des âmes. Dalinar avait toujours trouvé que le chant funèbre était le plus beau de tous ceux qu'il avait entendus chez les Parchendi. Il semblait traverser les grognements, fracas métalliques et hurlements de la bataille proche. C'était comme s'ils entendaient tous la même mélodie, quelque part au loin, et la chantaient en chœur de leurs lèvres ensanglantées, de leur souffle rauque. Les codes, songea Dalinar en se tournant vers ses hommes en train de se battre. Ne demandez jamais à un homme un sacrifice que vous ne feriez pas vous-même. Ne les obligez jamais à se battre dans des conditions que vous refuseriez vous-même. Ne demandez jamais à un homme d'accomplir un acte pour lequel vous refuseriez de vous salir les mains. Il se sentait malade. Tout ça n'avait rien de magnifique, ni de glorieux. Ce n'était pas la force, la puissance, ni la vie. C'était affreux, épouvantable, répugnant. Mais ils ont tué Gavilar, se dit-il, cherchant un moyen de surmonter le dégoût qu'il éprouvait soudain. Unissez-les. Rochard était uni autrefois. Les Parchendi en avaient-ils fait partie? Tu ne sais pas si tu peux ou non te fier à ces visions, se dit-il tandis que sa garde d'honneur se mettait en rang derrière lui. Elles pourraient très bien provenir de la veille et nuit, ou des néantifères, ou de quelque chose de tout à fait différent. En cet instant, ses objections lui semblaient bien faibles. Qu'est-ce que les visions voulaient qu'il fasse? Qu'il apporte la paix en Aletkar? Qu'il unisse son peuple? Qu'il agisse avec justice et honneur? Ne pouvait-il pas juger les visions sur cette base? Il leva sa lame d'éclat vers son épaule et s'avança solennellement parmi les morts en direction de la ligne nord, où les Parchendi étaient pris au piège entre ses hommes et ceux de Sadeas. Son dégoût s'accentua. Qu'est-ce qui lui arrivait donc? « Père !» cria Adeline d'une voix affolée. Dalinar se tourna vers son fils, qui accourait vers lui. La cuirasse du jeune homme était aspergée de sang Parchendi, mais sa lame luisait comme toujours. « Qu'est-ce que nous allons faire ?» demanda Adeline, haletant. « À quel sujet ?» Adeline se tourna et désigna le sud-ouest, le plateau situé au sud de celui où l'armée de Dalinar avait commencé son attaque plus d'une heure auparavant. Là, il vit une seconde et énorme armée de Parchendi en train de sauter par-dessus le large gouffre. Dalinar releva brusquement sa visière, et l'air frais baigna son visage en sueur. Il s'avança. Il avait prévu cette possibilité. Mais quelqu'un aurait dû donner l'alerte. Où étaient les éclaireurs? Qu'est-ce qui... Un frisson l'envahit. Tremblant, il s'avança en titubant vers l'une des nombreuses formations rocheuses lisses et saillantes de la tour. « Père !» demanda Adeline en se précipitant vers lui. Dalinar y grimpa et lâcha sa lame d'éclat. Il atteignit le sommet et se tourna vers le nord, au-delà de ses hommes et des Parchendi, vers le nord, en direction de Sadeas. Adeline grimpa à côté de lui et releva sa visière d'une main gantée. « Oh non !» murmura-t-il. L'armée de Sadeas se retirait en traversant le gouffre vers le plateau de rassemblement nord. La moitié des hommes avaient déjà traversé. Les 8 groupes d'hommes de pont qu'il avait prêtés à Dalinar s'étaient retirés et avaient disparu. Sadeas abandonnait Dalinar et ses troupes, les laissant seuls dans les plaines brisées, cernés de 3 côtés par les Parchendi. Et il emportait tous ses ponts avec lui.